MM Radio. MM Radio.
Bonjour à tous, je suis Angela Putti, bienvenue dans l'émission Lecture pour une nouvelle interview de notre série dans les coulisses de l'édition. On continue à explorer le monde et l'industrie du livre. Nous rencontrons des éditeurs, libraires, plateformes numériques et autres métiers de l'édition afin de vous faire découvrir le processus de création d'un ouvrage, sa distribution et sa promotion. Nous discutons aujourd'hui avec Constance Tipula, directrice France d'Audible, société américaine qui propose depuis 1995 des livres audio payants en téléchargement et qui furent achetés en 2008 par Amazon. Comment allez-vous, Constance ?
Je vais très bien.
Merci de nous rendre visite aujourd'hui.
Merci d'être venue.
Surtout que voilà, vous venez de l'Allemagne, c'est ça ?
Exactement.
Il fait comment là-bas ? Il fait mieux que chez nous ?
Non, normalement c'est plus froid et il y a plus de, plus de pluie aussi. Donc.
Ah oui, d'accord.
J'aime bien aller à Paris.
Et c'est où en Allemagne particulièrement ?
Notre siège, c'est à Berlin.
D'accord, ok. Qu'est-ce qui a changé depuis le rachat d'Audible par Amazon ?
Bon, déjà, nos produits sont maintenant disponibles sur le site amazonien. Cela nous a donné beaucoup d'exposition, c'est-à-dire il y avait une boost pour la notoriété déjà pour la marque.
Ouais.
Par contre, pour la France, on est intégré que depuis l'année dernière,
c'est
donc
vrai.
C'est très très récent.
Oui, c'est dans le premium, c'est juste ça.
Non, c'est pas premium, c'était juste que le site n'était pas dispo sur Amazon. C'était ce que nous appelons un problème de legacy. Donc, à l'époque, donc en 2005, Audible France a été fondée par France Loisirs.
D'accord.
Donc, le club, exactement, en tant que sous-licence de Audible.com.
Mm.
Et donc, France Loisirs a maintenu le site pour jusqu'au rachat d'Amazon en 2011.
Mm-hmm.
Et puis, nous avons pris quelques temps pour faire une décision. Est-ce qu'on va vraiment investir en France?
Mm-hmm.
Parce qu'on avait des doutes. Justement parce que le livre audio en CD n'a jamais vraiment très bien fonctionné.
C'est vrai qu'il y avait en CD avant, j'avais oublié ça.
Et même des cassettes.
Hein. Oui, c'est vrai. C'était plus pour les enfants quand même.
Exactement.
Ouais.
C'est pour les enfants. Ouais. Vous devez vous rappeler de la petite clochette qui a sonné pour tourner la page, etc. Donc voilà. Donc il y avait des doutes internement. Et puis on a lancé une grande étude de marché ensemble avec Ipsos qui a justement démontré que non, maintenant c'est disponible sur smartphone à travers des applis, ça change l'enjeu.
Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, ce que Audible, moi je sais que depuis l'année dernière, ils sont disponibles via le pack premium en fait.
Non, pas en France. C'est le cas aux États-Unis. On a un produit qui s'appelle Channels. C'est un produit qui est proche des podcasts.
D'accord.
Et ce service, il est dispo aux États-Unis pour Premium.
Ok, pas pourquoi chez nous en France, on est toujours à la traîne, nous. Hein.
C'est vrai, mais on n'est pas encore là.
D'accord.
J'ai rien annoncé aujourd'hui.
D'accord.
On verra.
Ok, tout dépend des habitudes de consommation après, tout à fait.
Aussi. Ouais.
Donc vous êtes situé à Berlin, vous faites de nombreux allers-retours entre Paris et l'Allemagne. Donc pourquoi vous êtes situé en Allemagne pour diriger la France ?
Très bonne question. Effectivement, parce qu'on est une sorte de start-up au sein d'une très très grande entreprise.
Qui est aussi considérée comme une start-up aussi.
Exactement.
Ouais.
Et donc, quand on a fait cette décision de relancer la France, il y avait des doutes, des hésitations et on a dit non, on reste à Berlin parce que là, on a tout l'appareil administratif, logistique, IT, web, etc. qui est derrière nous.
Mm-hmm.
C'est ça la raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais déménager pour
bien
la
sûr.
France, mais maintenant on est dans une phase de preuve et de test et ça marche très bien.
Ok, depuis combien de temps vous dirigez Audible ?
France depuis 2015.
D'accord, je vais commencer à dire aussi comme vous Audible, donc c'est Audible, hein, ceux qui nous entendent. Combien de livres sont en vente à ce jour sur Audible, sur la plateforme, vous savez ?
Ce sont 220 000.
Waouh !
Dans la grande majorité en langue anglaise, forcément.
Ouais.
On a 6000 références en langue française. Couramment, on est en train de massivement investir dans le catalogue, parce que le catalogue, c'est que nos clients cherchent, pourquoi ils sont là.
Ouais.
Quand on a commencé en 2015, on avait 2000 références, donc on a déjà triplé.
Ah, oui.
Et notre objectif, c'est d'avoir 10 000 fin 2018.
Et chaque année, c'est à peu près ce chiffre-là que vous souhaitez
ajouter.
D'accord. Quelles sont les catégories de livres que l'on peut trouver sur la plateforme ?
tous, ouais. Surtout les top sellers, parce que les top sellers, l'édition française, l'édition audio France, ouais. Se met surtout sur les livres qui cartonnent en format physique. Ouais. Et puis nous, ce que nous, on se spécialise beaucoup, nous, on est aussi producteurs. On n'est pas seulement distributeurs, mais justement pour croître le catalogue, on produit nous-mêmes. Mmh. Et donc nous, on se spécialise beaucoup sur les séries aussi, parce que c'est les séries, c'est la même loi que vous pouvez regarder dans la télé. Mmh. Nos clients aussi, ils cherchent un contexte, un sujet qui va se développer à travers les épisodes. D'accord. Et donc ça cartonne beaucoup.
Oui.
Voilà, donc okay. C'est ça. Sinon, pour la France, c'est peut-être intéressant à mentionner. Ouais. Donc, en comparaison avec les autres pays où on est actif, donc États-Unis, Angleterre, Allemagne, Japon, Australie, Italie.
D'accord.
En France, on a une grande partie de non-fiction.
Ah.
C'est les gens consomment beaucoup, beaucoup de développement du soi, de bien-être, de santé, etc. C'est vraiment particulier pour la France. En ce moment, les top 3 ventes sur notre site, c'est Le Charme des de l'intestin,
d'accord.
C'est les lois naturelles de l'enfant et méditer jour après jour.
D'accord.
Donc c'est ça.
C'est bien la méditation en plus pour l'audio, ça permet un peu de...
Exactement.
Ouais, de se déconcentrer. Mais justement, est-ce que vous dites qu'on peut trouver après toutes sortes de livres d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut trouver des livres de cuisine sur Audible?
Ah, pas vraiment.
Ouais.
Donc, on a lancé un premier test pour Noël avec Bruno Doucet. Je ne sais pas si vous connaissez le chef de la Régalade.
D'accord.
Ici à Paris.
Oui,
voilà.
Okay.
Et donc, on a fait un podcast d'abord. Mmh. Parce qu'en ce moment, la cuisine, c'est très, très sensoriel. Il y a normalement, il faut des images déjà pour en penser. On a fait un essai de le remplacer par des bruitages.
C'est ça.
Et ça a très bien fonctionné sur un petit format, donc durée très short.
Mmh.
On verra.
D'accord.
On fait les tests.
Donc, on peut trouver du podcast sur Audible.
Ça aussi. Ouais. Mais nous, on se concentre sur le podcast natif, c'est-à-dire on ne fait pas de radio différée.
D'accord.
Mais on cherche vraiment des podcasteurs qui se sont mis comme ça.
D'accord. Justement, on parlait de votre position, votre statut d'Audible. Est-ce qu'on doit vous considérer comme une maison d'édition, une société de production ou une plateforme de téléchargement?
Je dirais, nous sommes d'abord une appli distributive, c'est-à-dire une appli qui est spécialisée dans ce que nous appelons l'audio parlé, au sens large. Donc, les livres audio sont la catégorie la plus importante, mais il y a aussi des podcasts, des discours, de la comédie stand-up, etc. En deuxième lieu, on est aussi éditeur et producteur.
Ouais. D'accord, c'est ça. Ça veut dire que si on trouve, enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup de livres chez vous. Je crois que j'ai lu Steve Jobs, écrit par Walter, je sais plus comment il s'appelle.
Oui.
C'était excellent. Celui qui avait la voix était excellent. On sentait que c'était un Américain qui parlait français. Mais quand c'est des livres un petit peu de fiction, est-ce que vous êtes justement comme un... Hop, vous balancez dans la position de podcasteur et vous faites une production avec du son, vous savez?
Ouais. Donc, il y a plusieurs pistes. Donc, d'abord, il y a la narration nette, une voix.
Oui.
Sans bruitage, sans musique, etc.
Mm-hmm.
C'est la partie du catalogue qui est le plus important.
Ouais.
Ensuite, il y a des petites, tournures, comme par exemple, vous mettez un peu de musique aussi en tant que tourne-page, etc.
Oui. Ouais.
Et finalement, il y a le drama audio.
C'est ça.
Donc, ce que Radio France fait, par exemple,
exactement.
Avec une grande excellence. Et nous, on s'est mis récemment à programmer ce que nous appelons des créations omnisonores. Et là, vous avez un effet 3D que vous connaissez au cinéma.
Oui, au niveau... Oui,
voilà. Vous immergez vraiment dans un univers sonore et vous avez toutes les images dans la tête. Donc, on va lancer dans 2 semaines, Hélène, la sortie des profondeurs.
D'accord.
Et ça, c'est un produit qui est très avancé.
Wow. On va commencer à parler un petit peu plus de production. Hein. Comment doit-on faire pour être édité ou publié ou je ne sais pas comment on explique, produit par Audible?
Donc normalement, c'est notre département éditorial qui choisit des auteurs qui sont déjà publiés en livre.
D'accord.
Ça, c'est la piste classique.
Mm-hmm.
Ensuite, là, on suit vraiment des montes côté des clients, c'est-à-dire les auteurs qui sont recherchés sur notre site, par exemple, les auteurs qui sont des top sellers en papier ou en numérique.
D'accord.
Dans ce magasin. Mm-hmm. Sinon, il y a aussi la possibilité de nous pitcher un contenu qui sera originellement audio.
D'accord.
Donc, couramment, on est par exemple en train de chercher un auteur pour une série omnisonore qu'on aimerait bien programmer. Mm-hmm. Et finalement, il y a aussi cette méthode de faire un podcast soi-même et de demander d'être distribué
chez vous, forcément. Ouais, et là, il faut fonctionner en mode RSS, j'imagine, ou bien...
Oh, pas forcément.
D'accord. Quel est le processus de production jusqu'à la mise en ligne ?
C'est long. Ça commence, en effet, ça commence par l'achat d'une licence de faire un livre audio. On reste sur le livre audio parce que c'est le cas le plus simple.
Okay.
Donc, on achète cette licence auprès de l'éditeur du livre, normalement. Donc, on a le droit de programmer un livre audio. Mmh. Et donc, on va en studio et on fait une décision sur le narrateur. Et normalement, ça se fait en fonction du contenu du livre.
Bien
donc,
sûr.
Est-ce que c'est plutôt masculin? Est-ce que c'est un livre self-help pour les femmes ou pour les hommes, etc. Est-ce qu'il nous faut une voix qui dramatise bien, donc qui met beaucoup en relief, ou plutôt une voix qui est plus, disons, réductive? Mm-hmm. Ça peut aussi être un levier important. Mm-hmm. Et ensuite, on va pitcher le narrateur, donc lui suggérer le projet. S'il accepte, il va en studio.
D'accord.
Ensuite, pour le studio, il y a deux façons de produire. Mm-hmm. Donc d'abord, on fait la narration, on l'enregistre et on fait le coupage après.
D'accord.
Ou, par exemple, nos collègues à Londres font cela, c'est une production en simultané. Donc, à chaque fois, le narrateur va directement en arrière s'il a fait une faute. Et de cette façon, on programme instantanément le livre audio.
D'accord, ok. C'est combien de temps le processus, du coup? Parce qu'on m'a dit que c'était long tout à l'heure.
Ça, oui. Donc, on dirait une page, c'est entre 1 minute 50 et 3 minutes, ça dépend.
D'accord.
Et puis, puisqu'il faut beaucoup de retours, bien sûr, sur des passages qui étaient ratés.
D'accord.
Normalement, ça prend pour 4 heures, ça prend une journée.
Ok, ça, pour un livre, en fait.
Ouais.
Waouh! Et ça veut dire que là, alors, dans ce cas, les grosses productions, entre guillemets, les podcasts, où il y a de l'ambiance un peu très studio hollywoodien, ça prend beaucoup plus de temps aussi.
Ça, c'est énorme. Oui. Déjà parce qu'on a un cadre, exactement.
Ouais.
Et puis tout l'habillage, donc c'est toute la composition sonore.
Ouais.
Déjà côté ingénieur du son, ça prend vraiment du temps.
Oui, vous allez entrer en concurrence dans ce cas-là avec des grosses productions, qui cartonnent déjà aux États-Unis, qui font de l'audio, entertainment, ce genre de choses. Hein. Alors, vous m'avez dit que c'était vous qui décidiez un petit peu de choix selon les catalogues et les top best-sellers. Est-ce qu'il est possible qu'un auteur ou une maison d'édition vienne vers vous et dise voilà, on veut.
Ah, mais oui.
Oui, aussi, ça fonctionne aussi comme ça. Est-ce que la couverture doit être identique à la couverture
papier? Ça aide.
Oui, c'est mieux pour se retrouver facilement. Il y a des possibilités de fait que ce soit différent aussi?
Ça existe aussi déjà si on n'a pas les droits, par exemple. Donc, si pour n'importe quelle raison, la maison d'édition gère pas les droits de la couverture. Sinon, pour les classiques, par exemple, où il n'y a pas vraiment un volume de référence, on fait aussi des couvertures nous-mêmes. Mais
d'accord.
Sinon, ça aide beaucoup, bien sûr, parce que la marque de l'image, ça vient quand même du livre papier.
Comme un film, du coup.
Exactement.
Alors, vous me dites qu'il arrive des fois que vous n'ayez pas les droits. À quel niveau? Les droits de couverture, vous voulez dire?
Voilà.
Ah, d'accord, pas du livre. Hein. Pas des trucs sous-marins.
Non.
Est-ce qu'il est possible qu'un auteur enregistre son propre livre audio?
Ça existe aussi.
Ouais.
C'est l'auto-édition audio. Mm-hmm. Il n'y en a pas beaucoup, déjà parce que les coûts sont assez importants. Et ce qui est très important, c'est que le narrateur est un pro. C'est-à-dire, on peut pas.
Bien
les
sûr.
Gens pensent toujours, mais moi je sais lire.
Ouais.
Mais il y a quand même une différence assez grave entre quelqu'un qui est acteur, narrateur, et quelqu'un qui est un privé, quoi, un
c'est
particulier.
Ça. Exactement.
Par contre, il y a des talents.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est exclu.
C'est
mais...
ça. Et quel est le coût de production d'un livre audio, du coup?
Ça commence à 500 euros par heure et ça peut monter jusqu'à plusieurs mille d'euros pour une création omnisonore. C'est cher.
Ah oui, c'est cher.
C'est aussi pour ça que notre sélection n'est pas...
Oui, c'est pas la fête.
Pas encore.
C'est ça. Mais dans ce cas-là...
On joue la qualité,
oui,
pas la quantité.
Ça, je suis d'accord, en effet. Parce que moi, quand j'ai lu le Steve Jobs, ça, je suis rentrée... Même si c'était de la lecture classique, là, on était vraiment dans le format de base. L'accent, l'impression que l'acteur donnait dans la lecture était pénétrante. Donc forcément, ce sont des pros qui le font. Vous parliez aussi de l'auto-édition. Comment ça se passe, ça?
l'auto-édition, mm-hmm. normalement, ce sont des gens qui ont un petit studio ou moins sont équipés mm-hmm. côté son chez eux.
D'accord. Et puis. Et après, ils vous envoient le résultat, vous validez, c'est ça?
Oui, donc normalement, il faut avoir au moins 3 œuvres qui sont déjà éditées pour être onboardées chez nous, déjà, parce que sinon.
Ouais.
Et on fait aussi une quality assurance, c'est-à-dire on check sur la qualité du produit parce qu'on a une promesse client qui veut dire
bien
payer pour du bien.
D'accord, donc on peut vous envoyer ça par email. Comment on fait pour vous envoyer ça une maquette?
Normalement, les auto-éditeurs nous contactent aussi comme les éditeurs normaux. Ils mm-hmm. disent voilà, mon programme, il y a 5, moi j'ai programmé 5 livres audio et puis notre département éditorial va écouter
D'accord.
et va tester si ça vaut le coup.
Ouais.
Et puis il faut une couverture, il faut un texte d'accompagnement, etc.
Ouais.
Si c'est tout très pro,
ouais.
on va l'emballer.
D'accord, waouh. Et vous en avez beaucoup, ça, des auto-éditeurs?
Non,
sur.
C'est très rare.
C'est compliqué, hein.
C'est compliqué, ouais.
Faut le travail et la mise en page. Alors, le prix de vente d'un livre Audible, si j'ai bien tout vérifié, hein, démarre à 9 euros à peu près.
Exactement. Donc, on a un système d'abonnement. Donc, pour 9,95 euros par mois, vous avez un livre audio gratuit.
C'est ça.
Pas gratuit, mais à 9,95
oui. euros. Exact.
Sinon,
c'est vous qui faites la sélection.
Non, c'est pas nous.
Ah,
c'est,
okay.
Tout le catalogue est ouvert, donc c'est le client qui choisit.
Mm-hmm.
C'est juste que c'est un prix favorable au prix à l'unité parce que les livres audio sont chers parce que les coûts de production sont chers.
Ouais.
Et normalement, en CD, un livre va valoir 20 euros
ouais.
en moyenne, tandis que chez nous, c'est la moitié.
Oui, parce que si on entend tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, 500 euros le prix du studio, c'est clair que ça vaut. Je me demandais toujours pourquoi il y avait ce prix-là sur les livres audio. Maintenant, je comprends. Est-ce que tous les auteurs se doivent de créer une version audio de leur livre, à votre avis?
À mon avis, oui. À mon avis, en effet, on est trop. C'est un peu triste, pour être honnête, que en France, ça n'a pas encore vraiment pris un essor.
Ouais.
Parce que c'est génial déjà voir son œuvre traduite dans cet autre format, mm-hmm. cet format si riche, qui
ouais.
est beaucoup plus sensoriel, mm-hmm. qui invite beaucoup plus à l'immersion.
Mm-hmm.
On n'est pas une concurrence pour les livres, on est juste un autre format.
Ouais.
Et à mon avis, oui, les auteurs ouais. devraient nous chasser pour être.
C'est vrai, hein, parce que si le nombre d'auteurs qu'on a reçus dans la lecture et à chaque fois on demandait s'il y avait un livre audio, c'était presque ah bon pourquoi. J'étais là ok. Peut-on éditer donc directement un livre audio sans version papier ou numérique ou pas?
Théoriquement, oui.
Ouais.
Donc, par exemple, on regarde toujours les Kindle Direct Publishing de nos collègues chez Amazon.
Mm-hmm.
Et ça peut se faire. Il me manque un exemple concret en mm-hmm. ce moment, mais je crois qu'on a déjà fait.
Ouais. D'accord. Donc, pas obligé de. Et vous pouvez les sélectionner comme si vous choisissez les top sellers finalement.
Comment Exactement.
Ça se passe. Il faut que ce soit le contenu soit finalement très bon aussi.
Ouais.
Quel pays crée le plus de livres audio?
C'est les États-Unis.
Ah bah oui, forcément, parce que je crois qu'ils ont des maisons d'édition qui créent aussi leurs propres, comme Penguin, etc.
Exactement.
Ils ont des studios
Hachette. Ouais.
Aussi, d'accord. Et l'Allemagne, où on est l'Allemagne justement?
Donc, aux États-Unis, on a 220 000 références en langue anglaise. L'Allemagne est à 40 000.
D'accord.
Donc, c'est bien.
Oui.
Il y a quand même de l'espace encore.
Ouais, ouais. Quel est votre concurrent en termes d'impression, enfin même pas d'impression, d'édition de livres audio?
Édition de livres audio, on n'a pas de concurrent, que de partenaires.
Ah,
donc par exemple, en France, il y a une centaine d'éditeurs audio qui ne sont pas trop connus très souvent. Donc
d'accord.
la marque la plus connue, c'est déjà Audiolib, qui est une empreinte de
oui,
Hachette.
Vrai,
voilà.
Oui.
Ensuite, il y a Gallimard, mmh. Qui cartonne beaucoup aussi. Donc par exemple, Game of Thrones. C'est avec Gallimard.
Ah, forcément.
Donc, ça, c'est un grand best-seller chez nous.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a beaucoup de petites maisons d'édition. Telem, Ardigan, c'est un nouveau imprint qui s'est lancé justement pour les livres audio numériques et
mm-hmm.
qui fait le divertissement haut de gamme.
Mm-hmm.
Donc, Jojo Moyes, etc. Et il y a aussi des petites startups qui se mettent à l'audio justement parce qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose à bouche dans
ouais.
le marché.
Ouais.
Il y a par exemple le startup Audio Picture qui spécialisé dans les BD audio.
Oh, c'est pas mal.
Donc,
ça.
Encore graphique qui ouais. est transmis en bruitage.
Tout à fait. Et vous parliez du fait qu'ils étaient partenaires à quel niveau?
On a des contrats avec eux, c'est-à-dire nous distribuons leur contenu et nous sommes à 100% dépendants de leur output. C'est-à-dire on se considère vraiment, on veut croître la notoriété de la catégorie en France et on va faire ça ensemble avec nos partenaires dans l'édition.
Oui, et vous avez aussi un contrat aussi de partenariat avec Apple iTunes aussi, non ?
Exactement.
Comment ça se passe ?
À l'époque, c'était un contrat qui avait été fait de Don Katz, qui est notre PDG et founder, qui est toujours là, qui nous gère toujours, qui est toujours un grand visionnaire. Personnage très, très impressionnant. Et donc, il avait conclu un contrat avec Steve Jobs à l'époque que Audible va être le premier fournisseur des livres audio pour la iTunes Store.
D'accord.
Et il y a 2 mois, je crois, cette exclusivité, c'était un rapport exclusif, a été enlevée.
Oh.
Et maintenant, on est libre aussi de contracter avec d'autres partenaires distribution comme iTunes est libre d'avoir d'autres fournisseurs.
Ouais. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon
vous? Mais c'est toujours bien.
Ouais.
Je crois, avoir plus de flexibilité, c'est bien. C'était bien à l'époque, ça nous a permis de croître l'offre.
Mm-hmm.
Ça a permis à iTunes d'avoir, d'avoir une input pour leur store, mais maintenant les temps ont changé.
Combien de livres audio sont téléchargés sur la plateforme par jour?
Je ne peux pas vous donner
le chiffre.
C'est vrai. Ouais.
Vous connaissez ce chiffre en tout cas?
Oui.
C'est beaucoup, pas beaucoup? Je tente, hein.
Et ça croît.
Ouais, d'accord. Vous avez un objectif en tout cas.
Ouais.
Et il est atteint?
Je peux pas vous dire.
Télécharge-t-on plus de livres sur la plateforme ou sur l'application?
Application.
Sur l'application.
Ouais.
Hein. Et vous me parlez tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué, c'est que vous disiez que Audible était une application.
Oui.
Et la plateforme, vous la considérez en premier ou l'application?
Non, pour nous, c'est pour nous en France, le mobile, ce qui est le futur.
D'accord.
C'est juste parce que justement le fait que c'est dispo n'importe où, n'importe quand sur smartphone, que vous avez toute la collection, vous pouvez faire de la multitâche. Ou bien avoir un moment pour vous-même, juste avoir votre petit smartphone dans la poche, c'est ça le futur.
C'est clair. Je vous conseille d'écouter des fois des Audible en comment dire, en haut-parleur.
Oui.
C'est excellent aussi.
C'est vrai.
Est-ce que vous connaissez les habitudes d'écoute des Français?
Comment ça?
D'écoute de livres audio en français. Leurs habitudes, ils écoutent plus le matin, en faisant du sport.
Donc, on a une pic dans la consommation lors des horaires de transport, dans le matin et le soir, donc entre 5h et 7h, et le matin entre 7h et 9h.
J'imagine que la plateforme est optimisée à ces moments-là.
Elle est optimisée de toute façon.
D'accord.
Donc, on peut très bien gérer cela. Sinon, il y a beaucoup de gens qui écoutent en faisant du sport, dans les runners notamment. Notre dernière campagne télé jouait aussi sur cette cible qui est très forte pour nous,
c'est
parce
vrai,
que justement c'est boring d'écouter toujours à la musique. Donc avoir un texte qui nourrit aussi l'esprit quand on fait du sport, c'est très bien. Et sinon on voit, ça dépend des situations d'usage, sinon il n'y a pas de vrai pic. Donc il y a par exemple des gens qui utilisent Audible aussi comme une sorte de cachette pour s'endormir.
Ah,
parce que c'était mon calmant.
Ah, c'est une idée, ça, j'ai pas.
Voilà, ça vous renvoie en effet à votre enfance, non?
Quand, ah oui, c'est vrai.
Quand votre mère vous a lu quelque chose, voilà. Donc
très
maintenant,
bien.
Ça va être un acteur-narrateur qui vous fait ce plaisir.
Et ça, est-ce que la plateforme, enfin, l'application fonctionne hors ligne aussi, ou dans le cas où on est dans l'avion?
Oui, oui, absolument. Il faut télécharger le livre audio avant.
Est-ce que vous faites de la communication des livres que vous produisez et même des contenus audio que vous produisez?
On fait ça.
Là, vous avez lancé votre première campagne, hein, déjà en télé?
En télé. Exactement, dans la métro, on a très souvent des campagnes billboard. Donc on choisit normalement nos top sellers en fonction de la cible sur laquelle on travaille en ce moment. Donc, par exemple, les runners aiment beaucoup la non-fiction.
D'accord.
Ça va avec le profil, il paraît. Tandis que les femmes qui utilisent Audible pour se déconnecter, pour fermer les yeux, pour avoir un moment à soi, aiment beaucoup les grands romans, la chick lit, etc.
D'accord.
Donc on choisit en fonction.
Ouais. D'accord, ok. Comment ils font pour... Alors j'ai vraiment du mal à imaginer quelqu'un qui peut écouter un livre Audible où il faut avoir une forme d'attention et courir en même temps.
Oh, c'est très facile, moi je le fais moi-même.
Ah bon? Oui. Ah, moi je peux pas, parce qu'il faut se concentrer sur la course, sa respiration et en plus le livre.
Non, pas du tout, ça vous fait oublier le temps. C'est un grand avantage.
C'est
donc
vrai.
La première fois, les 10 km, je les ai aboutis justement en écoutant un livre audio, parce qu'on s'en rend pas compte. Et sinon c'est très divertissant.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'organiser des événements autour des auteurs ou avec les maisons d'édition?
Donc, on fait parfois des audits, c'est-à-dire, par exemple, pour cette création omnisonore alien, mm-hmm. on a fait un petit événement automne dernière où il y avait justement le cast en 5 narrateurs qui ont mis en scène une scène devant un public.
D'accord.
Donc, on avait les bruitages de la bande.
Oui.
Et eux, ils ont agi en live, ce qui était très impressionnant parce qu'ils ont souffert.
Ouais. J'imagine, très bien. Comment ça se passe chez Audible lorsqu'un ouvrage publié édité, produit ne fonctionne pas? Vous le mettez tout en fond, vous le sortez
non,
de la plateforme?
Non, ça reste sur la plateforme. Donc il y a deux critères. Il y a le critère contenu qui mm-hmm. peut pas fonctionner comme pour mm-hmm. tout livre, mais il y a aussi le côté performance. Donc parfois on laisse évaluer les deux.
D'accord.
Par les clients, et donc parfois si l'acteur ne reçoit pas de bons ratings, mm-hmm. ça va pas être acheté.
Parce qu'on peut laisser des commentaires sur les livres, j'ai pas vu ça encore.
Si, vous pouvez noter pour l'histoire et pour la performance.
D'accord, un peu comme Amazon et Kindle mm-hmm. de toute façon. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans le processus de production chez Audible de livres? Quelque chose qui est coincé et que vous aimeriez voir évoluer?
Mais moi, je crois qu'on est trop long. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas seulement nous, mmh. mais normalement, on reçoit les manuscrits juste avant l'imprimage du livre papier.
D'accord.
Et c'est trop short parce qu'il nous faut mmh. au moins 4 semaines pour programmer déjà l'enregistrement, etc. Mmh. On aimerait bien être en SIMPAP, en publication simultanée avec
ouais.
Le livre.
D'accord, ok. Sinon, à part ça, tout convient.
Ah oui.
Donc, on a parlé aussi de l'auto-édition pour des livres audio. Est-ce que vous pensez que c'est un marché qui peut exploser aussi, l'auto-édition, ou c'est encore trop de niche et il n'y a pas assez, comme vous dites, que ça coûte cher?
Ça coûte cher, ça c'est un petit hurdle. Mm-hmm. Je dirais, ça peut cartonner, clair. Mm-hmm. Je crois que l'auto-édition vient peut-être après l'édition. Donc, ouais. en ce moment, il y a beaucoup de discussions aussi avec des éditeurs qui sont spécialistes pour les livres mmh. jusqu'à maintenant, mais qui s'intéressent pour le sujet de faire aussi des éditions audio.
Ouais.
Et donc, je crois, une fois que ça aboutit, ça va probablement être l'auto-édition qui se met aussi. Mais pour nous, l'auto-édition, c'est aussi toute cette scène de podcasters qui sont super créatifs, ouais. innovateurs, etc. Donc, on aime beaucoup bosser.
J'ai regardé ça parce que j'ai pas vu ça. C'est depuis combien de temps que vous proposez ce service?
Mais on commence.
D'accord. C'est juste le début, depuis 2016 à peu près environ.
Oui, exactement.
Ok, vous serez au Salon du Livre.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur un stand de livres audio?
Donc déjà, on a pas mal de devices pour justement tester l'appli.
Oh.
Ensuite, on va...
Des devices sur iOS, Android.
Voilà,
aussi,
exactement.
iPad et tablettes et
tablettes Windows, exactement. Et ensuite, on va herberger aussi 4 tables rondes qui vont traiter justement l'art de la narration, l'innovation audio, les podcasters, et on va faire un truc très sympa pour les enfants aussi.
Génial, ok. Est-ce que vous pensez que le Salon Livre Paris est un salon important pour vous? Ça fait combien de temps que vous participez?
C'est notre deuxième année seulement. Mm-hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, moi j'aime bien.
Ouais. On s'est dit qu'on allait avoir beaucoup de critiques aussi, mais c'est vrai que c'est mitigé, en fait, on va dire.
Mais de toute façon, c'est très sympa pour moi. C'est un peu l'essence de l'édition française qui
ouais.
se joue dans cette salle.
Mmh.
J'aime bien déjà ce mélange avec de vrais clients, de vrais lecteurs, de vrais auditeurs pour nous,
ouais.
qui nous donnent une feedback immédiat. Donc, j'invite toujours toute mon équipe d'y venir et de discuter aussi avec des clients,
c'est
juste
ça.
Pour avoir d'autres idées
ouais.
et d'inspiration. Donc, moi, j'aime beaucoup le côté politique.
Ouais. Est-ce que vous pensez, justement, on parlait de politique, des livres audio sur la politique, ça fonctionne ça aussi?
Ça fonctionne, les biographies, oui.
Ah ouais. Quels sont les autres salons importants pour vous pour participer à Audible, si vous en participez à d'autres? Tu sais qu'il y en a un à Francfort, je sais pas si vous y êtes.
Ouais, à Francfort, on y va normalement pour justement acheter les droits, donc c'est plutôt côté pro là, c'est pas côté client. Sinon, en France, on a dressé une liste avec différents salons, parce qu'il y en a pas mal.
Ouais.
Donc on va s'amuser probablement à assister à plusieurs salons cette année, parce qu'on aime beaucoup ce contact direct avec des clients.
Et les salons pour enfants aussi qui se passent à Montreuil
avez... voilà. On y est allé aussi pour acheter des droits, on n'a pas exposé.
Ouais.
On verra pour
ouais.
l'année prochaine.
On parlait aussi tout à l'heure du profil de l'auditeur audio. Est-ce que quel est le profil qui écoute le plus de livres audio? Les femmes, les enfants, les hommes?
C'est semi, c'est-à-dire on a moitié femme, moitié homme.
Mmh.
Les enfants, je crois qu'on est toujours trop cher. Parce que 10 euros par livre audio, c'est pas vraiment pertinent pour les parents. Je crois que les parents en fait cherchent une offre limitée qu'on peut pas ouvrir en ce moment.
Ouais.
Donc chez nous c'est plutôt vraiment les adultes.
Mmh.
Et puis là c'est entre je dirais 25 et 45 ans notre cible cœur, nos clients cœur. Et puis ça dépend beaucoup de combien est-ce qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils font la multitâche avec dans les transports, pendant le sport, en faisant la cuisine, pendant le ménage, un motif très important, etc. Ou bien est-ce qu'ils se déconnectent, par exemple, pour s'endormir dans la soirée.
Je vais essayer ça aussi.
C'est trop bien, ça marche très bien. Sans impact chimiste.
C'est vrai. Après, il faut juste retrouver où on était le matin.
Non, mais là, on a un service, donc on peut s'arrêter. Il y a une sleep time.
C'est vrai. Fonction. C'est ça qui est bien, parce que même quand on change d'appareil, du coup, il remet un petit peu là
voilà,
où on s'était arrêté.
Signe. Exactement.
Bonne technologie. Est-ce que justement, vous pensez à réfléchir à un meilleur pack? Parce que là, c'est un livre par mois.
Oui.
Bah, du coup, c'est comme si on achetait du coup, juste un livre, parce qu'il faut aussi le temps de l'écouter. Moi, le livre de Stizio, j'ai mis 3 semaines. Mais est-ce qu'on peut faire un vrai pack, une vraie box de prix, comme un peu tout ce qui se fait en offre?
Mais nous, on est prête à tout. C'est-à-dire, par exemple, en Italie et au Japon, on travaille sur une offre illimitée. Donc là, vous avez une All You Can Listen.
Ah.
Par contre, en France, l'édition française est assez restreinte dans tout ce qui est cession des droits pour l'illimité. Et je comprends très bien. Ah. C'est-à-dire, on comprend. Donc, on attend leur initiative.
D'accord.
Okay. Mais dès que les grands éditeurs nous disent on le prête, on s'y lance, nous on sait que le potentiel va doubler.
Mais c'est vrai qu'il y a une affaire de droit aussi. Quel est le pays le plus conciliant en termes de droit? Prêt à s'engager justement?
Le plus cool. Mais je crois déjà les pays scandinaviens.
Comme
donc
toujours.
Là, il y a Storytel qui est une offre limitée.
Ah.
Ouais.
Et l'offre limitée dont vous parliez là depuis tout à l'heure, c'est combien le prix? C'est quoi, 25 euros?
C'est aussi 10 euros.
10 euros illimité? Waouh! Ouais. Wow, faut que j'aille là-bas! Quel est le futur d'Audible en termes de business, en termes de... Parce qu'il y a de la technologie derrière hein, quand même. Hein.
Exactement. Donc nous, on essaie toujours de développer encore une écoute plus avancée, c'est-à-dire de jouer aussi avec les fonctionnalités et des features.
Ouais.
La qualité du son est super centrale pour nous.
Mm-hmm.
Sinon, en France, on va croître l'offre, on va aussi diversifier l'offre. Maintenant, on commence à onboarder les podcasts natifs.
C'est ça.
Les créations omnisonores, donc on essaie vraiment d'élargir le spectre de notre offre contenu.
Mm-hmm.
Et puis, on croit beaucoup que les Français vont adopter
l'écoute audio.
Absolument.
Et la production, du coup, aussi.
Ouais. Enfin,
j'espère. Et est-ce que vous, en termes de créer de l'événement autour de livres audio, j'imagine que vous réfléchissez aussi à ça. Est-ce que vous pensez, pourquoi pas mettre des stations d'audio, d'écoute dans les aéroports, par exemple?
Oui, mais pourquoi? Vous avez votre outil chez vous, hein?
Oui,
je lui montre là le smartphone.
Oui.
Je lui montre son smartphone.
C'est vrai. Mais il faut s'abonner aussi pour pouvoir.
Extraits?
Comment ça se passe?
Les extraits sont gratos.
Combien de temps ils durent?
Normalement, entre 5 et 10 minutes, ça dépend.
Oui, quand même. D'accord. Moi, c'est vrai que.
Donc, et j'invite aussi à chacun qui veut tester d'écouter de toute façon l'extrait parce que la voix doit vous convenir sinon.
C'est vrai. Exact. On va parler un peu de votre relation avec les livres, Constance.
Ouais.
Est-ce que vous lisez plus en audio du coup?
Oui, j'écoute beaucoup.
Ouais. Ouais. Combien de livres préparés par.
Pas moi.
Par jour? Non,
par
jour. Semaine, on va pas déconner.
Mais au moins un podcast par jour, je dirais, et un livre peut-être un tiers. Donc j'écoute au moins je dirais 5 à 10 livres audio par mois.
Ah ouais.
Et lecture sur papier aussi.
Ouais.
Donc je viens de finir la chanson douce de Slimani qui était très sympa mais un peu bouleversant. Voilà.
D'accord. Et le travail, vous arrivez bien à gérer parce que je dis ça à ceux qui disent j'ai pas le temps de lire. Comment vous gérez vous?
Vous savez, donc je me rappelle de cet entretien que vous avez eu avec les éditions de la Pyramide et avec je crois Christelle, donc l'éditrice qui a dit oui mais moi je dois toujours faire la décision est-ce que je lis quelque chose ou est-ce que je fais du tricot. Voilà la solution.
C'est ça, c'est vrai.
Mettez-vous un livre audio. Et
c'est
vous avez un moment méditatif sur votre tricot, mais en même temps, vous savourez d'une belle histoire.
Oui, mais d'un côté, ça occupe l'esprit aussi, parce qu'il faut se concentrer sur le livre.
Voilà, donc c'est vraiment pour les moments où les mains sont occupées, où les yeux sont occupés, mais l'esprit est libre, c'est vrai.
Justement, en parlant de ça, il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus dans quel magazine j'avais lu ça, parce que les gens me connaissent, c'est ça que je suis très fan des études, en fait.
Oui.
Et qui disait que justement, le livre audio, c'est bien, parce qu'on permet de faire autre chose, mais en termes de concentration par rapport à un livre avec des mots écrits, on retient moins l'information. Et c'est vrai en plus, non?
C'est pas forcément frais. Déjà, c'est plus sensoriel, c'est-à-dire vous
vivez l'expérience.
Vous voulez plus les émotions que dans la lecture papier, je dirais, pour moi personnellement, compare. Et puis pour la non-fiction, par exemple, vous retenez les mêmes choses que vous retenez lors d'une conversation. Donc là aussi, vous concentrez sur l'essentiel qui a résonné avec vous.
Oui, mais quand il y a la conversation, moi je vous vois. Donc finalement, je vois vos mouvements d'yeux, de bouche. Alors que là,
je dirais même que ça vous empêche vraiment m'entendre.
C'est vrai, je suis d'accord.
Donc, si par exemple vous vous mettez à écouter les podcasts top de Slate.fr, vous ressentez exactement comment vous pouvez rapprocher quelqu'un qui pense, qu'est-ce qu'il pense, etc. Juste bon, parce qu'il n'y a pas la vue qui vous distrait.
En tant que productrice de podcast, je devrais savoir ça.
Ouais. C'est très intimiste cette expérience.
C'est clair, je suis d'accord. Quelles sont vos lectures audio favorites?
Moi, j'écoute beaucoup de non-fiction. Donc là, en ce moment, je suis mère aux lois naturelles de l'enfant, qui cartonne beaucoup aussi en papier, je crois. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui était mon dernier coup? Magie du rangement. Bien que moi, je range déjà beaucoup, donc c'était pas vraiment utile, mais je me suis retrouvée dans elle, dans l'auteur. Donc,
quel type justement d'expression vocale on doit avoir quand on lit ce type de, quand on raconte en audio ce type de livre?
Donc ça, c'est une voix plutôt réductive. Donc là, c'est Estelle Vincent pour la magie du rangement. Et elle, c'est très calme, c'est très concerté, etc. Ça fait du bien, c'est comme une petite méditation sur le sujet.
Pour les obsédés du ménage, je devrais écouter ça au téléphone du ménage. À quel moment vous lisez plus particulièrement de livres audio? J'imagine quand vous voyagez beaucoup, du coup.
Voilà, moi je voyage beaucoup, donc surtout dans les transports, dans l'avion, dans le train. Ensuite, moi aussi, je l'utilise pour m'endormir.
Ah oui.
Là, c'est surtout des podcasts, je ne sais pas pourquoi, parce que probablement, il y a juste une voix qui parle de faire son nom concerté.
Ouais.
Voilà. Mais ça m'arrive aussi de lire des vrais livres.
Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire des livres audio dans les avions, vous savez, Air France, ce genre de choses-là?
D'y être intégré ou de...
Oui, parce qu'il propose des lectures audio, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si ça continue.
Par ma connaissance, on a une deal avec la Lufthansa, donc dans le entertainment system de la Lufthansa en Allemagne. On est présent et on aimerait bien travailler avec Air France.
Quelle est votre prochaine étape de carrière dans l'édition, si c'est dans l'édition, ou la technologie, pourquoi pas? Est-ce que vous y réfléchissez ou bien c'est trop tôt?
Pour moi, personnellement, moi, je veux croître notre business français.
Ouais.
C'est ça mon objectif. Ouais, je ne pense clair. Pas plus loin en ce moment.
Moi, je suis impatiente de voir ce qu'il est possible de faire en termes d'audio, parce que l'audio, je trouve que c'est vraiment très parlant. Qu'est-ce que vous faisiez avant Audible?
J'ai travaillé dans l'édition, j'ai géré les droits internationaux, donc de traduction pour une maison d'édition allemande. Ensuite, j'ai lancé ma petite boîte moi-même, donc j'ai édité des livres enfants, graphistes. Et ensuite, j'ai été contactée par une headhunter d'Audible et j'ai géré le département contenu pour l'Allemagne.
Génial, quel parcours. Et ben bravo, merci beaucoup Constance pour
je vous remercie.
Franchise et venir nous rendre visite du coup, ou bien c'est moi qui viens chez vous. Je sais plus trop. Et puis on vous conseille de lire, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à... Vous en avez déjà parlé un petit peu pendant toute l'émission, mais quels sont en plus, qu'est-ce que vous pourriez dire pour que les Français écoutent plus de livres audio?
Mais venez sur nos applis ou sur notre site et testez. Donc le premier livre audio est toujours offert,
c'est
donc et c'est résiliable à tout moment, donc pas de fil à la patte, pourquoi pas tester.
C'est vrai. Ok. Bon, bah, vous avez toute l'expérience de Constance pour vous aider à lire le livre. Écoutez les prochaines conversations dans les coulisses de l'édition de l'émission de lecture tout le mois de mars pour continuer d'en apprendre plus sur le monde du livre. Je suis Angela Puti et à bientôt sur M Radio. Merci beaucoup, Constance.
Merci à vous.
Au revoir.
Ciao.
MM Radio.